Sérifage, l'émission série.
La série qui fera le sommaire de l'émission aujourd'hui est un grand classique de la télé, pouvant être classée dans le genre aventure et qui mêle humour, action et période historique. Cette série, l'as-tu reconnue ?
Zorro.
Eh oui, en effet, aujourd'hui on va parler de Zorro, une des séries cultes génération après génération, car c'est ses débuts, c'était en noir et blanc, ça a connu la couleur à partir de 1992, et c'est une série que toi tu as vu, que moi j'ai vu, que les gens avant moi ont vu, qui passe régulièrement. Bon, à elle seule, c'est vraiment la série de héros, quoi. Dès qu'on imagine la justice, l'aventurier, bah on voit Zorro. Quel petit gars n'a pas rêvé d'être Zorro faisant la justice. En plus, le coup de la double identité, on va y revenir après, donc c'est assez sympa. Zorro, en gros, bah, ça raconte les aventures de Zorro le renard, puisque c'est le renard en espagnol, pour ceux qui ne seraient pas hispanisants. C'est un justicier masqué alias Don Diego de la Vega, donc, qui lutte contre toutes les formes d'injustice. Ça se passe dans le Los Angeles du 19e siècle, donc, qui était alors une petite bourgade, une possession de l'Espagne encore. Hein, c'était pas la Californie américaine qu'on connaît. Et justement, dans certains épisodes, on voit les Américains qui essayent petit à petit de grappiller, soi-disant de faire un État indépendant. Mais bon, on a vu ce que ça donne, les États-Unis indépendants. On n'y croit pas trop. Hein. Il faut qu'il y ait un big boss, sinon ce n'est pas dans l'esprit des Américains. Alors, il affronte toutes sortes de personnages ambitieux et avides au courant des différentes saisons, et en imposant sa loi d'équité et de justice. Et bien sûr, il est toujours accompagné de son super cheval qui s'appelle Tornado. Donc, à l'époque, ça fait un petit peu comme Batman, on pourrait comparer maintenant, mais sauf que là, bah, c'est avec les moyens du bord, hein, c'est un cheval très rapide. Alors, au niveau de la série télé, elle est composée en fait de deux saisons de 78 épisodes de 25 minutes. Donc, à l'origine, en noir et blanc, comme je disais tout à l'heure. Puis, ils ont été colorisés. Bon. Pour une question de marketing, justement, pour passer les générations. Je pense que toi, tu as vu la version noir et blanc ou colorisée ?
Alors moi, je crois pas avoir vu la série, je crois que j'ai vu les films. Alors déjà, moi, j'avais pas la télé étant jeune, donc du coup, j'ai pas eu cette culture de la série. Mais je me souviens un peu des extraits où j'ai dû revoir des diffusions, et c'était en couleur, mais effectivement, la couleur légère, quoi, recolorisée.
Bah, oui, c'est vraiment colorisé. D'ailleurs, bah, pour ceux qui voudraient faire un épisode de rattrapage, tous les dimanches soirs et les samedis soirs sur FR3, pour ne pas les citer, vous pouvez voir des épisodes de Zorro. Donc, preuve que c'est encore au goût du jour, puisque si vous n'aimez pas les informations, eh bien, le week-end, vous avez le droit à Zorro. Donc, cette série, elle comporte aussi 4 épisodes d'une espèce de téléfilm de 50 minutes. Elle a été créée d'après le personnage de Johnston McCulley, qui au départ a créé ce qu'on appelait les romans feuilletons, qui étaient très populaires à l'époque. Donc ça vient de l'écrit. Hein. Et ça s'appelait d'ailleurs au départ, c'était Le Fléau de Capistrano. Donc voilà, le roman à l'origine de Zorro. Bon, la série, elle était produite par les studios Disney, et chaque saison est découpée en plusieurs épisodes qui forment une histoire indépendante. 2 histoires pour la première saison et 3 pour la seconde saison. Donc, on est dans un format où c'est bien de voir les épisodes à la suite, contrairement à maintenant ce qui se fait. Des fois, il y a certaines séries, on n'est pas obligé d'avoir suivi. Mais là, on est encore dans le style... Une série qui a une petite histoire sur plusieurs épisodes. Donc ça faisait un peu tenir en haleine les gens, dire qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine. Un petit peu un appât, quoi. C'était aussi la façon de consommer sur les radios à l'époque, beaucoup de feuilletons téléphoniques. Et donc ils avaient gardé, en passant à l'image, ils avaient continué ce style-là. Bien, je te propose dans un premier temps de découvrir le fameux générique hein, que, qui est dans l'oreille de pas mal de gens encore, et puis ceux qui ne l'auraient pas encore, et ben ils vont l'avoir maintenant.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinzette qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro,
eh bien, je te propose maintenant de parler un petit peu des héros. Donc, Zorro, alias Diego de la Vega, le héros redoutable combattant en tant que justicier, et c'est surtout un super épéiste, parce qu'il est parti faire ses études en Espagne, il avait gagné de nombreux trophées, et dans le premier épisode, d'ailleurs, on le voit jeter à la mer tous ses trophées, parce que bon, il veut pas. Il sent que la Californie et la petite bourgade de Los Angeles qu'il a connue avant de partir dans ses études, ça a bien changé et que vaut mieux pour vivre heureux, vivons cachés un petit peu. C'est ce qu'il adopte et comme ça, il va pouvoir prendre la température au fur et à mesure, sans que les autres personnages puissent douter de sa double identité.
Un peu comme Superman, quoi.
Ouais, Batman, Superman, tous ces héros-là, oui, qui ont une double identité. Alors, la double identité qu'il a choisie, donc, c'est Diego de la Vega. Alors, lui, c'est plutôt le gars un petit peu poltron, coureur de filles, séducteur, poète à 16 heures, le bon copain, quoi, mais un peu trouillard, quoi. Et donc, petit à petit, il va se mêler à la vie de Los Angeles, puis lutter vraiment sous les traits de Zorro ce coup-ci. Il a décidé de se cacher, de s'habiller. Et là, par contre, il montre tous ses talents au combat et ça n'a rien à voir avec le Diego de la Vega Trouillard. Alors, dans ses aventures, il est aidé par Bernardo. Alors, Bernardo, c'est le serviteur muet de Diego, qui joue aussi le sourd, ce qui lui permet de tromper la méfiance de tout le monde et d'espionner pour le compte de Zorro. Et justement, lui aussi, dans le premier épisode, au départ, en fait, il est que muet. Mais ils ont l'astuce de dire, tiens, tu vas te faire passer par un sourd muet, et comme ça, tu pourras te mêler à la foule ou à aucun moment les gens vont se douter que t'es là. Et c'est comme ça que c'est un précieux allié parce qu'en fait, il est au courant de tout ce qui se passe. Même des fois, Zorro ne sait pas des choses. Et hop, y a Bernardo qui arrive et dans son langage des sourds-muets de l'époque, il lui annonce tout ce qui va se passer. Alors, il est longtemps le seul à connaître la double identité de son maître et il est un allié fiable et précieux. C'est-à-dire que à aucun moment, il nous montre qu'il est capable de duperie. C'est vraiment le bon serviteur, bien sympathique. Alors, dans la famille, je vous donne le père, Don Alejandro de la Vega. Alors, lui, c'est un notable, le gros propriétaire terrien, le père de Diego. Lui aussi lutte pour la justice dans sa ville de Los Angeles. Mais bon, le problème, c'est qu'il a un caractère un petit peu impétueux. Et lui, il ne comprend vraiment pas pourquoi son fils ne combat pas. Il dit « Ah, moi, si j'avais ton âge, pratiquement, c'est ça, quoi. » Et il est encore capable de faire le coup de poing. Il comprend pas vraiment au départ que son fils ne s'insurge pas contre toutes les injustices, contre les complots. Et puis finalement, à un moment, dans un des épisodes, il apprendra vraiment la véritable identité de son fils. Et là, dans les épisodes après, il sera évidemment bien fier et puis bien sûr le complice de son fils. Et avant qu'il le sache, il était très admiratif de Zorro. C'est un modèle, quoi. Et à chaque coup, il le cite à Diego. Et alors l'autre, fait « Ah bah oui ». En fait, ce qui est marrant, c'est que le père n'a jamais fait le lien. En fait, à chaque coup qu'il se passe quelque chose, son fils trouve toujours une excuse pour dire « Ah bah moi, j'étais là ». Enfin, il arrivait après la bataille, quoi. Et c'est ça qui est assez marrant, parce qu'à aucun moment, le père ne comprend le superfuge. Alors, en face, il y a les personnages récurrents. Alors, le sergent Demetrio Lopez Garcia, le fameux sergent Garcia, joué par Henri Calvin. Alors, lui, c'est le militaire bête et discipliné, mais avec un bon fond. Il combat Zorro par devoir envers la loi, mais il a quand même de la sympathie pour le justicier qui l'aide à combattre le crime, tout en le ridiculisant, parce que c'est vraiment le souffre-douleur de Zorro. Mais il l'aime bien, quelque part. Voilà, il va le ridiculiser en combat et dans ses actions, mais jamais physiquement, quoi. Il va jamais le blesser au sang. Voilà. Donc, c'est un petit peu les running gags. À chaque coup, on sait très bien qu'il y a Zorro et Garcia. Alors, des fois, c'est une certaine complicité, parce que l'autre va l'aider, mais voilà. Comme il représente la loi, il peut vraiment pas être celui qui va arrêter Zorro. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est le grand ami de Diego, bien sûr, qui, tout en étant son ami, lui soutire aussi un petit peu des informations sur ce que va faire les différents vont faire les différents gouverneurs ou la loi. Donc c'est bien que il est informateur à son insu. C'est assez marrant d'ailleurs. D'habitude, c'est la police qui sert des informateurs, mais là non, c'est l'inverse. Donc c'est assez sympa. Quoi dire sur le sergent Garcia aussi, qu'il aime bien boire et manger dans l'auberge du village, d'ailleurs qui est un des endroits récurrents où on retrouve les héros. Et il est même un peu poltron des fois, parce que quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas faire, il abuse auprès de ses subalternes. Et non, vas-y, on va en parler après, le fameux caporal Diaz, allez. Il lui donne toujours les tâches. En fait, c'est un petit peu l'effet parapluie, quoi. Le commandant lui en met plein la tête. Après, lui, il se venge sur ses subalternes. Et donc, ce fameux subalterne dont on parlait tout à l'heure, c'est le caporal Reyes, joué par Don Diamond. Alors, c'est son subalterne et son souffre-douleur à Garcia. Bon, lui, il n'est pas très futé. Il fait vraiment la paire avec le sergent. C'est un petit peu les Laurel et Hardy, en fait, déjà dans le physique et aussi dans la manière de se comporter. On voit qu'il y a une très grande influence de Laurel et Hardy dans Zorro par le fait de Reyes et Garcia qui sont un petit peu comme ça. Alors, lui, il aime bien aussi la bonne bouffe. Il aime bien, ce qui est marrant, parce que souvent, il a plus de succès auprès des femmes que Garcia. Et donc, ça entraîne aussi des super quiproquos, donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit extrait de Zorro pour un petit peu comprendre cet univers et puis comment ça se passe.
À tout de suite.
Je sais que vous êtes impatient de rentrer chez vous.
Ça a été pour moi une journée fatigante.
Et je vous prierai de remplir cette déclaration si cela ne vous fait rien. Et votre retour inattendu n'est pas sans nous étonner. D'après ce que votre père disait, vous deviez rester à l'université encore un an.
Eh bien, j'en ai décidé tout autrement. On mettait un peu trop l'accent sur la gymnastique et le maniement d'armes. Il y avait même des étudiants qui se provoquaient en duel.
Ah oui. Ah, quel joli son rend cette fine lame de Taleb. Oh, veuillez m'excuser, Don Diego. Et votre père ne me le pardonnerait pas s'il vous arrivait malheur.
Le sergent Garcia vient vous annoncer que l'inspection est terminée, mon commandant.
Bien. J'espère qu'il n'y avait pas de contrebande.
Toutes les valises et toutes les malles sont remplies, sont bourrées de livres énormes. Qu'est-ce que je dois faire avec ça, mon commandant?
Accroche-la à ma panoplie, espèce d'idiot.
Hein?
Imbécile! Peux-tu me fiches le camp?
Eh bien, je crois que je peux m'en aller, commandant. Je vous remercie.
Au revoir, Seigneur de la Vega.
Eh bien, comme d'habitude, dans notre petite émission Sérifage, on va vous parler un petit peu des anecdotes, des guest stars qui sont passés chez Zorro. Alors, l'acteur principal, bien sûr, Guy Williams, l'acteur héros de Zorro. On l'a pu le voir aussi dans pas mal de films d'aventure. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une bonne carrière au ciné. Mais bon, son rôle, le rôle principal qui l'a fait connaître, bien sûr, c'est Zorro. Et pour le choix de l'acteur qui devait incarner Zorro, le réalisateur de la série qui s'appelle Norman Foster, il avait hésité à prendre tout d'abord Britt Lomond, qui était un acteur qui était un redoutable épéiste Et finalement, on retrouvera ce personnage quand même dans la série Zorro, puisqu'il jouera le commandant Monastorio, qui restera un des ennemis héréditaires de Zorro et un de ses plus beaux adversaires. Et ce qui a donné même de belles passes d'armes, c'est le moment de le dire, puisque les deux étaient férus en escrime. Et qu'à l'époque de la série, ils jouaient à ferret non moucheté, c'est-à-dire que les gars, ils se battaient et il y a eu des blessures réelles.
D'accord.
Parce que les combats qu'on voit, bah, c'est vraiment avec des vraies épées. Donc maintenant, on verrait plus ça, mais un petit peu la fierté des deux hommes faisait que, ils voulaient montrer qu'ils étaient capables d'assurer. Donc c'est vrai que c'est assez fou de penser, parce que c'est pas les débuts du cinéma, hein, c'est quand même dans les années 50. Donc y avait déjà des flingués. Hein. Alors l'acteur George G. Lewis, qui interprète Alejandro de la Vega, le père de Zorro, avait été lui-même la vedette masculine. Donc il avait été Zorro dans Zorro et la femme au masque noir, un film qui avait été produit en 1944. Donc c'est assez marrant de voir la filiation qu'il peut y avoir entre les personnages et qui ont toujours flirté avec le personnage de Zorro. Alors le compositeur William Lava, qui a composé le fameux générique qu'on connaît, avait déjà composé la musique du film Zorro et les femmes au masque noir. Donc c'est vraiment...
Parce qu'avant que ce soit une série, c'était un film, Zorro.
Oui, il y a eu plusieurs... on en parlera aussi à la fin dans les séries. Mais c'est... Comme je vous le dirai tout à l'heure en vous présentant un petit peu si vous avez aimé cette série, ce que vous allez voir que Zorro a été d'abord le feuilleton écrit, dont on parlait tout à l'heure. Après, ça a été adapté en muet. Et après, il y a eu une flopée d'une quarantaine de films, au moins, sur Zorro. Hein. C'est quand même un personnage qui a, comme je disais, nos générations, mais les générations depuis 1900, il y a du monde qui a vu le personnage de Zorro sous toutes ses formes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir les aléas, on a dit, les blessures. On va parler, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu des personnages de la série au niveau de... Ah, je vais arriver à le dire. Des films, des adaptations. Donc, il y en a eu 40 au cinéma depuis 1920. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Sinon, on va parler un petit peu d'instant critique. Alors moi, je dirais une période peu utilisée dans les avantages. J'ai trouvé qu'une période peu utilisée et assez méconnue de l'histoire post-états-unienne. Donc c'est assez sympa parce que souvent, on voit les westerns traditionnels, voire les pionniers américains. Mais cette période un petit peu oubliée...
C'est quoi, c'est la guerre d'indépendance, non c'est...
Non, c'est carrément la naissance de la Californie. La Californie était encore espagnole, c'était même avant le Mexique. C'était encore un territoire de la couronne espagnole. Et là, c'est un petit peu, pour situer un peu pour les gens, c'est avant la période Alamo.
OK.
Donc, on voit que les Américains et aussi les riches riches espagnols voulaient une indépendance par rapport à la couronne, parce que ça fait un peu comme les Américains par rapport aux Anglais. Ils avaient un petit peu ras-le-bol de travailler puis envoyer toute la thune en Espagne. Comme les Américains ont eu ras-le-bol d'envoyer tout leur argent des colonies en Angleterre, c'est un petit peu ce qui se passe dans Zorro. Hein. On comprend un petit peu ce mouvement. L'avantage, un héros à la double personnalité, donc Zorro le redoutable bretteur d'un côté et de l'autre côté Diego le poltron. Donc comme tu disais tout à l'heure, en effet, ça a laissé un petit peu apercevoir les personnages modernes qu'on allait avoir après, de Batman, bien que c'est à peu près aussi dans ces mêmes époques que sont nés ces héros. Mais c'était très à la mode, les personnages avec une double identité comme ça, puis surtout bien, bien définie, quoi. Le couard, un peu comme Superman, je peux pas, je m'en vais, j'ai piscine, et puis l'autre à côté qui par contre lui va faire la justice et puis avoir soit des super pouvoirs ou alors avoir des super capacités. Alors bon, bah, sympa, c'est que la justice triomphe toujours et souvent avec humour. Ça, c'est pas mal. Il y a toujours un... C'est pas « je suis le grand Zorro », machin. Des fois, il y a la petite pointe d'humour. Oui, ah bah vous avez vu, sergent ? Ah bah c'était bien, il y avait Zorro qui vous a aidé. Donc, c'est pas... Il rapporte pas tout. Il met aussi en valeur les gens comme le sergent Garcia qui ridiculise un petit peu. Alors, des héros, alors très important pour moi, des héros qui sont hispaniques et les méchants conspirateurs sont parfois les Américains qui veulent créer la Californie américaine. Alors ça, c'est extraordinaire quand on sait la période où ça se déroulait. Et puis, bah, que ça soit des hispaniques qui soient les héros. Hein. Notre ami Trump, là, il se retournerait dans sa tombe. Et ça se trouve, il va même interdire Zorro parce que... Hein,
là, derrière le mur, Zorro.
Derrière le mur, Zorro, voilà. Et un avantage aussi, une série tout public, comme on disait tout à l'heure, intergénérationnelle, qui peut se regarder en famille... qui explique sûrement en fait son succès génération après génération, parce que les grands-parents ont baigné là-dedans, qui ont transmis aux parents, qui ont transmis aux enfants, et ainsi de suite. Et donc, c'est un sujet où toute la famille peut se retourner et puis discuter ou regarder. Et même encore, justement, c'est un petit peu l'alternative aux enfants qui ne veulent pas se fader les informations, quoi, par exemple. Donc... Et puis, bon, bah, l'amanchage des saisons avec une intrigue différente, ça, c'est sympa aussi, d'avoir une histoire en continuité, mais pas une saison égale une histoire, ou voilà, c'est, le format est assez original. Les points qui pourraient être négatifs, des soldats caricaturaux, toujours assez simplés. Donc, voilà, dans la vie, il y a quelques soldats intelligents, et puis il n'y a pas que des grands bonnets comme on voit là-dedans. Des méchants aussi très caricaturaux, on parlait de Monastorio, tout ça, c'est vraiment rien que... Ils rigolent jamais, ça, c'est vraiment le méchant typique des films de KPDP. Par contre, un petit défaut aussi, un format qui oblige à regarder chaque épisode à la suite pour mieux comprendre l'intrigue du début à la fin. C'est vrai que si on loupe 2-3 euros, on est un petit peu largué, parce qu'on va dire pourquoi il fait... On en est là, voilà, ça c'est un petit peu gênant. Bon, l'avantage c'est que 25 minutes, donc on peut les rattraper rapidement. Puis comme j'ai dit, des méchants bien fourbes et des héros bien sympathiques, pas de profondeur de personnage, il n'y a pas de gens ambigus, pourquoi, voilà, c'est vraiment des caricatures de personnages, on ne fouille pas trop dans le passé des personnages ou pourquoi ils agissent, on n'est pas dans la psychologie. Alors maintenant on va faire le petit parallèle, si vous avez aimé, comme je disais tout à l'heure, 40 adaptations au cinéma depuis 1920, dont le Zorro, que tu as peut-être vu, le film avec Alain Delon et Ottavia Piccolo, qui était dans les années 70, il n'a pas fait que des flics, Alain Delon, il a fait Zorro. La Grande Zorro, un film parodié avec George Hamilton et Lorraine Hutton, où Zorro se blesse et c'est son frère qui est gay qui va prendre sa place. Et donc lui, par contre, il est plus dans la fête, dans le délire. Et donc donc c'était, il veut s'habiller plus classe. Donc il a la tenue noire, non ça va pas. Donc faut prendre voir ça comme une pastiche.
Oui, c'est une parodie. Oui.
Vraiment la parodie des années 80. Il y a quand même une histoire autour de Zorro, mais bon, on part. La légende de Zorro et le masque de Zorro avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones.
C'est cela
que tu as vu. Ouais. En effet, ça a remis un petit peu le héros au goût du jour. Une version qui n'est pas si mal que ça, puisque bon, ils en ont quand même fait deux films. Puis bon, c'est vrai, on reste bien dans l'esprit de la série et du personnage. Donc,
Banderas, c'est plutôt convaincant, je trouve.
Voilà, c'est ce que j'ai. Déjà, il est hispanique, donc.
Mais par contre, je n'ai pas souvenir justement de sa couardise. Dans ce film-là, je crois pas qu'il...
On montre pas trop. Voilà, il est pas. Oui, c'est pas.
Au contraire, même. Le truc, c'est que c'est le début de Zorro aussi. Et au contraire, il est très révolté.
C'est vrai que c'est américain dans toute sa splendeur. On parlait tout à l'heure de l'influence dans les années 50-60. On voyait en héros hispanique. Là, c'est un petit peu. Les valeurs, je suis plus fort que tout le monde, et c'est vrai que ça a un petit peu changé. Ce côté-là, par contre, dans le film avec Alain Delon, on retrouve. Là, vraiment, on a un gouverneur trouillard qui a peur des chiens, de n'importe quoi. Et si tu veux retrouver un petit peu cet esprit-là.
Bon, je le regarde alors.
Voilà. Alors sinon, bah, les classiques, Le Signe de Zorro de 1920 et 1940. Les deux ont été tournés avec Douglas Fairbanks, qui est un des grands acteurs de KPDP et d'aventure. Il a fait beaucoup de films de pirates et des choses comme ça. Et ce qui est assez amusant, oui, c'est qu'il a tourné et la version muette en 1920, et c'est lui qu'on retrouve 20 ans après en train de faire la version avec parole. Une série TV de 1990, Les Nouvelles Aventures de Zorro, 88 épisodes de 21 minutes, qui, elle, n'a pas connu le succès de la série des années 50, dont on parle aujourd'hui et qui est toujours diffusée à l'écran. Et puis, bon, allez, pour terminer, il y a une petite série qui est vraiment passée inaperçue, Zorro et Fils, en 83, qui n'a d'ailleurs duré que 5 épisodes de 25 minutes. Un projet, on pourrait dire, avorté. Voilà, bah, j'espère qu'on vous aura donné l'envie de voir ou de revoir Zorro. Et puis, c'est séquelles, hein, puisque là, on vous a donné des petites idées.
Puis on se retrouve.
Et puis on se retrouve à bientôt. Et là, je pense que si tout va bien, on parlera dans les prochains épisodes de Mon Oncle Charlie, tout d'abord. Et puis après, on départira sûrement dans le mystère. J'en dis pas plus.
Et bien à bientôt, merci beaucoup.
Merci.
L'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro.